7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Sandrine Mercier.
Bonjour les voisins, les voisines, ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une émission qui pourrait s'appeler « Si loin, si proche » comme l'émission de voyage sur RFI. L'amour à distance est-il un amour possible? Elle habite à Dakar, mais son gazou de mari a un contrat pour 3 ans à Paris. Un autre couple s'est rencontré la dernière année de fac, mais maintenant ils vivent séparés à plus de 1000 km. Comment cultiver l'amour quand on s'en voit, quand on se voit 2 ou 3 fois par an? Internet et les nouveaux moyens de communication ont faciliter les relations à distance. Pour autant, celles-ci sont toujours perçues comme difficiles à vivre, voire vouées à l'échec. Alors comment bien vivre son amour à distance, être loin de l'autre? Qu'est-ce que ça peut apporter à son couple? On en parle aujourd'hui avec deux femmes. Fabienne Kramer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste, spécialiste des troubles psychoaffectifs et vous sortez 21 clés pour l'amour slow aux éditions PUF. Et vous êtes dans les studios de France Bleu à Avignon.
Sous le soleil.
Vous vous sentez comment?
Un peu seule, mais 7 milliards de voisins, je vais bien trouver des gens pour parler avec moi.
Alors seule, c'est vrai que pour vous, ce sera une émission à distance, hein, en tout
cas.
Oui,
c'est ça.
Et vous proposez aussi des thérapies de couple à distance, c'est-à-dire...
C'est-à-dire que moi, je ne travaille que par Skype, donc je propose des thérapies de couple. Alors, les couples ne sont pas à distance, en général, ils sont ensemble, mais pourquoi pas, on pourrait aussi envisager de les avoir séparés. Et voilà, et ça fonctionne très bien, la thérapie à distance.
Comme c'est... l'amour à distance, avec Skype aussi, c'est une nouvelle donnée de cette nouvelle forme d'amour. Oui. Nous sommes également avec Émilie Devienne, bonjour.
Oui, bonjour à toutes les deux. Donc bonjour à nos 7 milliards de voisins voisines.
Vous êtes écrivain et coach sur le couple et un de vos derniers ouvrages, Les règles d'or pour faire durer le couple chez Larousse. Est-ce que la distance fait partie d'une de ces règles d'or?
Écoutez, je pense que dans la vie, par rapport à ce sujet, c'est un petit peu, comme vous savez, il y a le groupe de ceux qui préfèrent les douches, ceux qui préfèrent les bains, ceux, voilà, le café, le thé, etc. Et là, on a ceux pour qui l'absence nourrit le désir et ceux pour lesquels loin des yeux, loin du cœur. Donc l'idée, c'est d'aller pêcher son amoureux ou son amoureuse dans le bon bain, parce que sinon, ça va devenir compliqué.
Alors, votre témoignage est le bienvenu. Si vous avez vécu un amour à distance, racontez-nous comment vous avez fait pour survivre. À votre avis, est-ce voué à l'échec? Car l'amour a besoin d'être nourri au quotidien ou au contraire, le couple serait plus durable car moins routinier. On attend vos témoignages au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook. Alors, beaucoup, beaucoup de messages, hein, les voisins, les voisines. Le sujet vous passionne. On ne sait plus où donner de la tête. Il y a Aimé qui nous écrit de Bongouanou. Aimé, eh oui. Mais alors, lui, il n'a jamais cru en ce type d'amour. La distance, pour lui, peut carrément affecter les relations, voire même occasionner l'infidélité. Il y a Adji de Brazzaville qui nous dit on ne peut pas prétendre aimer une personne qu'on voit virtuellement et qui vit à des kilomètres. C'est un rêve, une illusion, ce n'est pas de l'amour. Que vous dire encore? Il y a Helmut de Bangalore en Inde qui lui dit « De près ou de loin, le pire peut toujours arriver, il faut le savoir. Le but est de se sentir engagé. » Qu'est-ce que je veux donner? Il y a Jackie par exemple de Tana qui nous dit qu'il a vécu une relation à distance avec une fille qui vivait au Cameroun, mais que pour lui c'est vraiment trop d'ennuis, trop compliqué, et qu'aujourd'hui il a fait sa vie avec une fille qui vit dans le même pays que lui, et que c'est beaucoup mieux. Alors, bon, encore un petit message de Moussa de Niamey. Alors, carrément pessimiste, pour lui, la distance tue l'amour. Et ce qui va un peu dans le sens de Moussa de Dakar, qui nous dit « C'est comme un oiseau sans aile. L'amour à distance n'arrive pas à voler. » Continuez d'échanger sur Facebook, les voisins, les voisines, ou appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 pour passer à l'antenne. We must be
in... 7 milliards de voisins et la planète se parle.
Alors l'amour à distance, est-ce un amour impossible? On va tout de suite rentrer dans le vif avec un témoignage. C'est l'histoire de Marie et Charles. Ils se sont rencontrés il y a 5 ans en Espagne. Mais Charles ne voulait pas s'engager car il partait au Japon pour travailler. Mais Marie, elle a su le convaincre jusqu'au moment fatidique. C'est un témoignage recueilli par Alice Milo.
Finalement, le moment tant
redoutée est arrivée, le départ. J'ai la tenue à l'accompagner à l'aéroport, la valise qui casse en route, le bus qui tombe dans les bouchons, on change, on prend le RER. Il arrive, il était sur liste d'attente finalement parce qu'il n'avait pas fait son checking online. Moi, je voyais tout ça comme des signes. Je me dis, il va pas partir, c'est génial et tout. En fait, je voulais pas qu'il parte. Il est quand même parti. Ça a été finalement le premier départ de plein de départs à chaque fois. C'est se quitter, on sait qu'on va se revoir, mais on ne sait pas quand. Et puis là, je me suis dit, ouais, c'est dur. Et je suis rentrée tout de suite chez moi, et j'ai acheté un billet d'avion pour le Japon. Et je suis partie 3 semaines après le voir. Parce que je voulais voir où il habitait. Je voulais voir son nouveau monde, son appartement, la ville où il allait habiter, parce que c'était pas Tokyo. Donc je suis allée. Ça s'est super bien passé, passé 15 jours là-bas. Et puis après, ça a été toujours la même chose. Pendant un an, on se voyait, il venait en France, j'allais là-bas, mais on savait jamais quand en fait. Et ça, c'est dur. Et surtout, dans la distance, il y a le mot distance, évidemment, mais il y a aussi le décalage horaire. Et pas pouvoir communiquer aux mêmes horaires, c'est très compliqué. Et puis le week-end, c'était Skype. Donc pour lui, c'était le soir. Pour moi, c'était l'après-midi, début d'après-midi. Je gâchais, oui, carrément mes week-ends à rester enfermé chez moi, à skyper avec lui. Lui, c'était le soir pour lui, donc c'était pas un problème. Mais je devenais aussi hyper exigeante. Et ça, ça a été... moi, c'est devenu obsessionnel, en fait. La distance, j'en pouvais plus très vite. Parce que en plus, c'est bien, j'avais vu où il était, j'avais vu son univers et tout, mais je savais pas du tout qui il fréquentait. Et quand je voyais passer des photos sur Facebook avec des filles dont il ne m'avait pas parlé, par exemple, là, ça commençait un peu à me... Bon, j'avais complètement confiance en lui, et en même temps, je me dis, mais c'est qui ces nanas là, quoi? Il attendait toujours la dernière minute pour réserver ses billets d'avion, pour poser ses congés. Bon, ça m'a épuisée, en fait. Ça m'a vraiment épuisée. Du coup, au bout d'un an, et je l'ai quitté d'une façon assez dure, parce que j'ai été le voir. On a passé 3 semaines là-bas, super, donc ça faisait un an qu'il était là-bas. Et c'est à l'aéroport que je lui ai dit, quand est-ce que tu rentres? Une dernière fois, je lui ai demandé. Et il m'a dit, je sais pas, je peux pas choisir. J'ai dit, je choisis pour toi, je te quitte. Et je l'ai quitté à l'aéroport. Et ça a été... c'était horrible, en fait. Ça a été horrible de ma part. Je lui ai juste envoyé un texto pour lui dire que j'étais bien rentrée. Puis j'ai coupé les ponts pendant plusieurs mois. Et il a essayé de me recontacter. Moi, évidemment, c'était terrible. Ce que j'avais juste envie, c'était aussi de lui parler et tout. Mais je souffrais plus de cette relation à distance que finalement de cette rupture, quoi. Les mois ont passé... 3 mois, c'est pas non plus si énorme que ça. Et puis un jour, je sais pas, je me suis réveillée en crise d'angoisse en pleine nuit. Je devais avoir rêvé de lui, je pense. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Il faut que j'aille le voir, il faut que j'aille le retrouver, il faut que je le récupère. C'est lui, quoi. Il y a personne d'autre, c'est vraiment lui. Je me suis connectée sur internet et j'ai acheté un billet d'avion pour partir un week-end au Japon. Sans lui dire. Donc je me suis préparée et puis je suis allée attendre devant sa porte qu'il arrive. J'ai attendu une heure hein, quand même. Et puis il est arrivé avec ses petits sushis emportés à la main, et puis il m'a trouvé là et il s'est arrêté net. Et puis tout de suite il m'a embrassé et il m'a dit, je te promets, je rentre cet été. Donc c'était 4-5 mois plus tard. Ça fait 5 ans aujourd'hui. Enfin, ça fait 3 ans qu'il est rentré, voilà. Et je me suis rendu compte que voilà, une relation à distance, c'est pas forcément se battre contre son conjoint, contre quoi que ce soit, c'est se battre contre soi-même, en fait, et arriver à contrôler sa jalousie, son impatience et tout ça. Et ça, c'est très très dur, c'est très difficile, surtout quand on a les copains, les copines, la famille autour qui va dire, mais arrête cette histoire, ça sert à rien, laisse-le vivre sa vie, tu peux pas lui gâcher sa vie et tout. Et ce qui est vrai en soi, mais c'est très difficile de faire la part des choses quand le cœur nous pousse à croire que c'est le bon, quoi.
Et pour la petite histoire, Marie est donc sur le point d'accoucher, ça devrait se passer demain ou après-demain. Donc la distance a vraiment fait partie de leur histoire, c'est le cas de plus en plus de couples, non, passés par cette étape d'éloignement, Émilie de Vienne.
Eh bien oui, ça fait partie de leur histoire et justement ça fait partie des grands thèmes, je pense, dans les couples qui vont contribuer à se construire un mythe, de se construire une histoire, de faire couple, entre guillemets, contre l'adversité, contre les avis. Alors on a ça avec la distance, on a ça avec les différences d'âge, le couple va trouver un sens à sa vie de couple, hein, en ce sens que, bon voilà, on vit à distance, on vit avec quelqu'un qui est beaucoup plus jeune ou beaucoup plus vieux que nous, on vit avec quelqu'un qui n'est pas de la même origine que nous, qu'elle soit géographique, qu'elle soit sociale, etc. Donc, et ça, ces différences vont contribuer à construire une histoire. Ça, c'est la première chose. Et ce que m'inspirait aussi ce reportage, que je trouve par ailleurs tout à fait charmant et touchant, puis un week-end quand même, ça fait très style, un week-end pour le Japon, c'est également de voir à quel moment cette question de la distance se pose dans le couple. C'est-à-dire, est-ce au début d'une relation, et là encore, tous les espoirs sont permis dans une espèce d'effervescence, de tension amoureuse, et les nouvelles technologies, nous en parlerons très certainement tout à l'heure, peuvent être des biais aussi pour satisfaire ce désir. Est-ce qu'on est vers le milieu de la relation? Est-ce qu'on sait que c'est temporaire, mais que c'est très important pour l'accomplissement, l'épanouissement de l'autre? Donc, je pense que dans l'absolu, comme ça, parler de la distance, c'est un peu difficile. Il faut la remettre dans le contexte de l'histoire du couple. Et le mot d'engagement qui a été prononcé hein, au tout début dans l'intro de l'émission me semble très juste. C'est-à-dire jusqu'à quel point je m'engage auprès de l'autre pour accepter cette règle du jeu.
Alors, en préparant cette émission et en lisant tous les messages effectivement, qui nous parviennent, il y a souvent ce proverbe hein, qui revient à l'esprit, loin des yeux, loin du cœur. Que dit ce dicton populaire, Fabienne Kramer, pardon.
Oui. Ce qu'il dit, c'est un dicton. Enfin, si vous voulez, l'amour à distance, c'est pas nouveau. Hein. L'amour courtois, ça existait au 19e siècle. Les gens n'avaient pas les moyens de se rencontrer. Maintenant, on est à distance non plus parce qu'on n'a pas le moyen de venir l'un vers l'autre. On l'a vu dans le reportage avec Marie et Charles. Il suffit qu'elles prennent un billet. Mais parce que la vie nous mène avec nos mobilités à distance les uns des autres. Et aujourd'hui, beaucoup de couples seront confrontés à un moment donné ou à un autre au fait de devoir être à distance. Et ce que l'on voit très bien dans ce reportage, que je trouve super intéressant, c'est qu'en en fin de compte, du jour où ils ont eu un projet commun, la distance n'a plus été un problème. Et au départ, ils ne savent pas très bien. Le garçon, Charles, dit « je ne sais pas ce que je veux ». Donc tant que l'autre ne sait pas ce qu'il veut, et c'est ce que dit Émilie aussi, c'est que tant qu'il n'y a pas un engagement commun, la distance est un handicap. Après, je crois qu'il va falloir réinventer des différents couples, et le fait d'être un couple mobile, un couple qui sera de temps en temps à distance, ça va devenir quasi une obligation. On n'aura pas le choix.
Oui, c'est ce que dit Prisca d'ailleurs de Ouagadougou. Elle nous dit l'amour à distance, c'est quand même une conséquence du fameux développement derrière lequel nous courons chaque jour. Et c'est vrai que j'ai lu que c'était la réalité de plus en plus de couples. Hein. Par exemple, aux États-Unis, il y a 3 millions de couples qui sont mariés, mais qui ne vivent pas dans la même ville.
Mais oui, absolument. Alors, pardon, Fabienne.
Il y a à distance et à distance. C'est-à-dire que je pense que le à distance peut être imposé par la vie et puis momentané avec un projet de se rapprocher un jour. Mais il y a aussi le à distance qui arrange. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de couples aussi qui ont tellement peur de la routine, de la quotidienneté, du fait que l'amour est souvent un peu déceptif quand on vit au quotidien, qui se protège par la distance et qui se trouve des raisons, des excuses ou des moyens de rester à distance pour essayer de garder une sorte de magie à l'amour.
Ah oui, c'est une manière de préserver son couple. Donc, en vivant à distance, le couple pense que leur amour sera plus durable. Il y a cette version-là aussi.
Alors, on peut l'imaginer et en même temps, il y aura d'autres défis parce que bon, quelqu'un évoquait la fidélité, c'en est un. Encore qu'il y a des couples qui font couple et qui pourtant acceptent parfaitement que quand les deux sont séparés, ben, chacun mène sa vie. Ça, c'est encore une fois, ça dépend des règles qu'on a décidé de poser à l'intérieur de son couple. Puis par ailleurs, cette fameuse distance qui pourrait nourrir le désir ou qui pourrait être, selon certaines croyances, dans l'idée de faire durer le couple, comme je dis, va présenter d'autres difficultés, ne serait-ce que de logistique. Bon, on n'a même pas parlé du fait qu'il y ait des enfants ou pas, là, c'est encore une autre histoire. Mais cette distance peut, à mon avis, être tolérée tant qu'elle est expliquée, que le choix est partagé et que, je dirais, chacun veut être une chance pour l'autre. Mais si l'un des deux, je dirais, a envie de maintenir un rythme de vie comme il a toujours connu et ne rentre pas dans le désir de l'autre d'évoluer ou de saisir une chance, etc., la distance va effectivement redevenir une difficulté.
Oui, c'est souvent vécu plus difficilement par un des deux membres du couple et donc il faut effectivement être sur la même longueur d'onde. Alors on va tout de suite prendre...
Vos témoignages.
Oui, c'est ça. Oui.
En fait, il y a quand même un sujet, c'est-à-dire qu'à distance, la sexualité, c'est pas la même chose. Quoi.
Alors on va tout de suite écouter Ji Baba qui nous appelle de Moroni, donc aux Comores, et qui est dans une relation à distance depuis un an. Bonjour, Ji Baba.
Bonjour.
Alors, on vous écoute. Vous avez composé le 33 1 84 22 71 71.
Bonjour, Sandrine. Bonjour, les auditeurs de RFI.
On vous Allô écoute, allez-y, on vous écoute, on est tout oui.
Ah, ok, je vous reçois. C'est juste, je voulais prendre part à votre émission concernant les relations à distance. Je voulais faire un petit témoignage, montrer aux auditeurs et aux auditrices que l'amour à distance, ça existe et c'est réel.
Vous, vous le vivez effectivement depuis un an. Vous êtes à Moroni, donc aux Comores, et elle est à Dakar. Alors, comment vous fonctionnez ?
Comment ça se fonctionne ? Ça a commencé depuis à Dakar. Quand on était à Dakar, on a bien beaucoup parlé sur cette période qu'on va traverser durant notre distance. Et il y a les réseaux sociaux qui nous permettent à chaque jour de partager des moments ensemble, de donner des idées, de... Psychologiquement, je ne ressens pas cette distance, même si c'est physiquement c'est un peu douloureux, mais psychologiquement, moi, je ne le ressens pas.
Et qu'est-ce qui vous fait tenir le coup, Djibaba ? Ah, on a perdu Djibaba. Non, il est toujours là, il a disparu. Bon, ça a coupé, la ligne a coupé. En tout cas, il a un rapprochement de ce que j'ai cru comprendre qui est prévu dans 2 ans quand elle va terminer ses études. Donc, il y a une issue quand même derrière cet amour. Oui, Fabienne.
Il fait une belle dissociation entre psychologiquement et physiquement. Et c'était un peu ce que je disais auparavant. C'est-à-dire que psychologiquement, aujourd'hui, tous les couples, qu'ils vivent ou qu'ils ne vivent pas ensemble, qu'ils partagent une vie à deux, ont des moments à distance. On a ce fil virtuel de la communication qui est quasi permanent dans tous les couples. Et ça, en ça, les couples à distance aujourd'hui ne sont pas plus empêchés que les autres à la différence près du décalage horaire qu'évoquait tout à l'heure Marie. Mais globalement, on arrive à être à distance et à avoir autant de communication, en tout cas avec son partenaire. En revanche, l'aspect physique, lui, la présence physique, le fait de pouvoir être pris dans les bras quand on a un coup de mou, un truc comme ça, ça c'est là que ça joue, que c'est différent. Et c'est ce dont il souffre d'ailleurs.
Alors cette communication, c'est vrai qu'elle revient souvent. Par exemple, il y a les Naïcs de Libreville qui nous dit la communication, il faut communiquer parce que c'est vraiment quand même le manque de communication qui tue l'amour à distance. Donc elle utilise WhatsApp, Facebook, le téléphone. C'est vrai qu'avec tous ces nouveaux moyens, Émilie de Vienne, la distance, elle est complètement
C'est un peu ce que disait Virilio à une époque, c'est que les distances se sont rapprochées, etc., en raison des technologies. Je me souviens, je l'ai relu récemment parce que je trouvais très beau un roman qui s'appelle Le vin de la liberté et qui raconte l'histoire, en gros, d'une femme aristocrate vers Bordeaux en période de la Révolution française, donc vers 1789, et qui évidemment va tomber amoureux d'un très beau jeune homme, mais qui est un révolutionnaire, sinon c'est pas drôle, et il est à Paris. Mais comme ces deux personnes sont issues de milieux privilégiés, elles ont la chance d'avoir des chevaux rapides, des chevaux de bonne qualité, si je puis dire, et ils s'écrivent. Et le romancier précise que les lettres prennent en moyenne, grâce à ces chevaux bien dressés, en forme, 6 jours. Donc, on imagine qu'à l'époque, nous, on est tout énervés quand on n'a pas un SMS qui nous arrive dans le quart de seconde pour répondre au nôtre. 6 jours pour le recevoir, si tant est qu'entre-temps, le cheval soit pas mort, le cavalier, tatata, et on remet ça dans l'autre sens. Voilà, donc, évidemment, les amours ont changé, les rapports à la technologie. Hors antenne, tout à l'heure, je vous racontais l'histoire de ma petite belle-fille, enfin, qui maintenant est une grande jeune femme, mais qui, quand elle était amoureuse et pendant la période de ses études, à un moment donné a vu son amoureux devoir partir à l'étranger pour un stage et elle me dit mais c'est pas grave on a Skype et j'avais découvert que son usage de Skype ainsi que celui de son amoureux c'était de le laisser ouvert tout le temps et de mener sa vie dans la maison donc elle pouvait faire sa toilette se maquiller, déjeuner, étudier Skype était ouvert donc ils avaient cette impression de pouvoir se croiser devant l'écran ou se parler vraiment réellement voilà je trouve que c'est intéressant, c'est comme toutes les technologies on pourrait dire la même chose du nucléaire on pourrait dire la même chose de tous les moyens tout dépend de l'usage que l'on va en faire.
En tout cas, l'usage de Skype, de WhatsApp ou de Facebook, effectivement, permet de garder le lien.
Des fenêtres.
Des fenêtres, oui.
C'est-à-dire qu'il faut encore qu'elle passe devant l'écran pour qu'il la voie et donc elle peut avoir toute une vie à côté différente. Et c'est ce qu'il y avait dans votre reportage tout à l'heure avec Marie, c'est qu'avec le décalage horaire, ils étaient obligés d'avoir deux vies en fait.
Voilà. Ils étaient obligés de se fixer des rendez-vous.
C'est bien presque une mise en scène.
Alors, on va se retrouver, nous, dans 3 minutes. Hein. Ne quittez pas, je dirais. Racontez-nous si, comment vous avez réussi à cultiver l'amour dans l'éloignement. Au 33 1 84 22 71 71. Nous sommes avec Fabienne Kremer, psychanalyste, qui a écrit 21 clés pour l'amour slow aux éditions PUF. Et Émilie Devienne, écrivain et coach sur le couple. On se retrouve dans 3 minutes, après le flash.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue à tous les voisins, les voisines qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on s'aime à distance. Enfin, on essaye. Vous avez trouvé l'âme sœur, mais elle habite à l'autre bout de la planète. L'amour sera-t-il plus fort que la distance? De plus en plus de couples vivent à des centaines de kilomètres. Pourquoi en viennent-ils à accepter cela? Quels sont les risques et les avantages? Est-ce qu'une histoire loin des yeux, loin du cœur peut fonctionner? Si vous avez des témoignages, n'attendez pas la fin de l'émission. L'antenne vous est ouverte au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook. Nous sommes avec Fabienne Kremer, psychanalyste, spécialiste des troubles psycho-affectifs. Vous êtes l'auteur de 21 clés pour l'amour slow aux éditions PUF. Et également avec nous, Émilie Devienne à Paris, écrivain et coach sur le couple. Votre dernier livre, Les règles d'or pour faire durer le couple, c'est chez Larousse. Alors, j'ai vu une étude sino-américaine qui montrerait que ces couples, les couples donc qui vivent à distance, vivraient plus longtemps que les autres. Est-ce que vous pensez qu'effectivement c'est valable comme théorie, Fabienne Kremer?
Oui, ça me paraît juste logique et une question de temps. En fin de compte, l'usure se répartit sur le nombre de fois où ils se voient, donc globalement ils s'usent peut-être moins vite, mais pour autant ils ne vivent pas plus intensément. Je crois que quand même j'ai en tête, vous racontiez une histoire, j'ai en tête un couple d'amis qui ont été à distance de force pendant des années et des années, qui sont mariés, etc., qui se retrouvaient tous les week-ends et qui vivaient la semaine à distance. Et quand il s'est agi de pouvoir se regrouper au même endroit, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas eu envie de se regrouper. Non pas parce qu'ils s'aimaient moins, mais parce que le fait de vivre à distance, ça vous permet quand même d'avoir un temps pour vous. Alors aujourd'hui, on a les enfants à mi-temps dans beaucoup de familles, et pourquoi pas les amours à mi-temps aussi. Il y a cette notion de temps. Donc on a l'impression qu'on s'use moins en se frottant au quotidien moins tous les jours. Je ne dis pas que c'est la solution, hein. Mais ça peut se concevoir quand même.
Pour certains couples, en tout cas, ça l'est. Et paradoxalement, cette étude disait que le couple serait plus solide quand il est à distance, car il communiquerait mieux, avec plus de moments d'intimité. Comment est-ce possible, Émilie Devienne?
Parce que je pense justement que quand on communique, on n'est plus sur les petites routines ou le oui-oui en ayant la tête sur sa tablette. On est vraiment dans ce moment, cette mise en scène dont je parlais un petit peu tout à l'heure, où on a envie d'être en présence de l'autre. C'est un petit peu comme ce que les sociologues appellent la conjugalité non cohabitante. Donc quand on n'est pas... On est un couple, mais on ne vit pas dans le même appartement ou la même maison. Ben, au moment où nous sommes ensemble, bien, il y a cette envie de se faire plus beau, de se pomponner, d'éventuellement sortir une bonne bouteille de vin. L'alcool nuit toujours à la santé, n'oublions pas. 7 fruits et légumes par jour et tout. Bon, bref, il y a tout ce côté-là. En revanche, les écueils, comme je le disais tout à l'heure, ne seront pas les mêmes dans la distance, selon qu'on choisit de voir cette distance comme un moyen de faire durer le couple, comme une mise à l'épreuve, ou aussi, il faut y penser, comme une espèce de tentative d'ailleurs, plutôt, de se remettre en question sur son couple. On se dit, bon, on va peut-être prendre un peu chacun nos distances pour voir si on a aussi envie de se regrouper. Il faut aussi voir la qualité de la distance. Qu'est-ce qu'on a choisi de mettre dans cette distance?
Alors, il y a Ayaba qui nous appelle de Bamako, qui a composé le 33 1 84 22 71 71. Et alors pour lui, bonjour Ayaba, je crois que l'amour à distance, ça vous a pas réussi. On vous écoute, Ayaba.
Bonjour Sandrine, et bonjour à tous les auditeurs de RFI. Pour moi, c'est vrai, l'amour à distance n'a pas vraiment marché. Et là, quand j'entends tous les témoignages et les conseils des invités, je me dis que c'est peut-être parce que j'étais pas mariée avec les personnes. Bon, je pense avec le mariage, il y a plus d'engagement. Dans mes deux histoires que j'ai eues, la première, c'était que on était bien ensemble et quand il est parti pour ses études en Tunisie, il y a eu un gap, il y a eu, on va dire, un moment, on va dire presque 2 mois où je n'ai pas entendu parler de lui. Je savais pas ce qu'il vivait. Il y avait un manque de communication. Et entre-temps, moi, j'essayais d'envoyer chaque fois des emails, des SMS, des messages. Et c'était le silence complet. Après, un jour, je reçois un message pour dire Oui, je vais bien, tu me manques beaucoup et tout et tout. J'ai dit, mais j'ai l'impression qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas, en fait. Et le message que j'ai répondu, c'était juste pour dire, je veux plus de toi, c'est fini. Et la deuxième histoire, c'est que lui, il est en Chine et moi, je suis à Bamako. On était très bien, on a presque un an, je veux dire, comme ça, dans cette relation. On se parlait tous les jours. Mais après, j'ai remarqué que moi, j'étais prête à faire des sacrifices. J'étais même prête à laisser mon boulot pour aller le rejoindre là-bas. Mais lui n'était pas prêt à faire la même chose quand il s'agissait de revenir ici, vers chez nous. Donc, j'ai pris le temps de réfléchir. J'ai fait un choix. Je me suis dit, c'était pas la peine.
Donc, c'est vous à chaque fois qui avez décidé d'arrêter la relation ?
C'est ça, c'est moi qui ai à chaque fois décidé d'arrêter parce que, en fin de compte, je me dis, je fais des efforts, mais j'ai l'impression que je suis seule à toujours tendre la main et à faire toujours plus, à donner plus de mon temps, de mon énergie pour faire vivre la relation.
Merci beaucoup, Ayaba, pour votre témoignage. Émilie de Vienne.
Mais écoutez, oui, merci. Moi, le mot qui me venait en vous écoutant, Yaba, c'était la notion du désir. C'est-à-dire, cette fameuse communication, encore faut-il qu'on désire communiquer. Si on est dans la logique de dire, eh zut, il est midi chez moi, il est telle heure chez lui, il faut qu'on se parle. Comme le disait un petit peu au début de votre émission, dans le reportage, cette jeune femme, bon, ça finissait par lui gâcher ses week-ends aussi, vu le décalage entre la France et le Japon. Donc, oui, j'ai envie de dire, le mot désir, il va être omniprésent, que ce soit dans un couple qui vit sous le même toit, dans 20 mètres carrés, dans 100, dans 200 ou à 6 kilomètres. Qu'est-ce que je fais de mon envie d'aller vers l'autre ? Qu'est-ce que je fais ? Quelle est mon intention ? Et cette distance, j'y reviens, c'est quelle est mon intention quand j'ai cette distance ? C'est de m'épanouir et en m'épanouissant, je serai plus heureuse dans mon couple. C'est, on a des enfants, c'est un bon poste, on a leurs études, on a la maison à payer et on va comprendre tous les deux de contribuer. C'est, en ce moment-ci, on aurait peut-être besoin de se remettre en question. Éloignons-nous, mais attention aux prédatrices qui vont se jeter évidemment sur notre cher époux ou aux prédateurs qui vont se jeter sur la femme légitime, pour le moment.
Non, vous dites qu'il faut vraiment réfléchir, quand on vit comme ça loin de sa moitié, aussi Fabienne Kremer, le pourquoi on en vient à accepter ça.
Absolument, pour que ça fasse sens. Tant que le couple est réuni par le sens, il peut supporter beaucoup de choses.
Il y a autre chose, moi, que je voulais dire, c'est que quand vous êtes à distance, vous êtes quand même deux personnalités. Donc, de temps en temps, vous êtes tombé amoureux de votre voisin de palier, mais c'est un type super fuyant. Donc, il peut être à distance et fuyant. Et donc, moi, je crois que ce qui compte, c'est d'avoir un projet commun, une entente, une bonne communication, et de se dire, on organise notre vie à distance, notre vie de couple, parce qu'on est ensemble, de telle façon que l'un et l'autre soient confortables dans cette vie-là. Et à partir de là, c'est possible. Mais ça, je crois que c'est pas un problème de à distance ou pas à distance, c'est un problème d'engagement et d'entente. Alors, il faut quand même voir qu'il y a beaucoup d'hommes ou de femmes d'ailleurs qui ont une propension au goût pour la vie, la double vie. Et donc, en effet, c'est ces gens-là qui vont vont trouver un intérêt à être à distance. C'est un peu ce que racontait Ayaba dans la première partie. Manifestement, c'était un garçon qui devait hésiter entre une double vie, enfin qui n'était pas très clair.
Donc vous dites une double vie, c'est-à-dire qu'il est un deuxième bureau,
un deuxième
comme
bureau,
on dit, c'est ça.
Oui, un deuxième bureau où pas savoir très bien lui s'il lui fallait quelqu'un sur place et puis ça n'a pas dû marcher pendant les deux premiers mois, etc. Toi qui reviens vers elle, mais ça c'est une situation qui n'est pas liée à la distance, c'est une situation qui est liée à la relation entre deux êtres.
C'est ce que dit Elisabeth de Montréal, elle nous écrit un petit conseil pour toutes les petites naïves qui croient en l'amour à distance, oubliez, ça ne marche pas, il va vous tromper. C'est sûr.
Donc, il pourrait aussi bien tromper avec la voisine de palier. Bonjour Montréal au passage, parce que j'y ai vécu une vingtaine d'années, donc quand j'entends Montréal, ce mot est doux à mes oreilles.
Ouais, le problème de l'infidélité revient souvent dans les risques.
Vous savez, les maîtresses vous raconteront qu'il y en a beaucoup qui sont à distance. Hein.
Alors, on va tout de suite écouter François qui nous appelle de Paris. Bonjour François.
Oui, bonjour.
Alors vous vivez en ce moment une relation à distance aussi, et ce n'est pas un long fleuve tranquille, on vous écoute.
Non, c'est un petit peu compliqué. À un moment, on a pensé tous les deux que justement, une distance permettait d'échapper à la routine, d'échapper à des tas de choses que moi, je n'ai jamais aimées, qu'elle ne voulait plus non plus. Et donc, on allait trouver quelque chose d'idéal. Mais ce n'est pas vraiment le cas, parce que ça pose des problèmes de logistique, c'est fatigant psychologiquement, physiquement, au niveau emploi du temps. Et voilà, donc c'est pas si simple, c'est pas ce qu'on pensait idéal, être idéal.
Donc au départ, vous voyez en fait que les bons côtés, c'est ça ce que vous nous dites. Et petit à petit...
Il y a beaucoup de bons côtés. J'écoutais votre émission. Par exemple, les moments de communication sont des vrais moments de communication. On est vraiment ensemble, on se parle, et on n'est pas l'un assis à côté de l'autre en train de regarder la télé ou je ne sais pas quoi. Quand on se parle au téléphone pour se donner des nouvelles, on est vraiment ensemble. Quand on se rend compte en week-end ou sur des périodes de 3 jours, on est ensemble parfaitement, d'une façon très agréable, vraiment avec l'autre. Il y a plein de bons côtés quand même, bien sûr.
Mais est-ce que vous sentez qu'avec l'éloignement, par exemple, l'affection se délite ?
Ah non, je ne crois pas ça. Loin des yeux, loin du cœur, vous disiez tout à l'heure, moi je ne pense pas du tout. Je crois que quand on aime quelqu'un, c'est la personne qu'on aime, ce n'est pas les services qu'elle peut rendre ou sa présence, ou je ne sais pas. Non, mais ça complique les choses parce qu'on est dans l'attente, dans le manque, il y a des souffrances qui ne sont pas les mêmes que quand on est ensemble, etc. Quoi. Mais je ne crois pas que les sentiments s'étiolent ou diminuent, non. Non.
Oui, c'est un peu ce que je disais en ouverture d'émission. Il y a le clan des douches et des bains, des beignets, des cafés d'été. Ben, il y a aussi loin des yeux, loin du cœur, ou au contraire, l'absence nourrit le désir. Et c'est vrai que le couple, encore une fois, là, on parle comme si c'était un état statique, mais le couple va évoluer. Les deux personnalités vont elles-mêmes évoluer. La relation va donc bouger. Donc, ce qui est vrai à un moment donné va devoir être mis en contexte et rediscuté parce que chacun va bouger dans sa vie, avoir des aspirations. Donc, il faut vraiment, à mon sens, être attentif, encore une fois, à ce que l'on met dans cette distance, combien de temps, quelles sont nos règles du jeu et effectivement communiquer le plus possible. On revient à cette question du désir et cette question de confort. J'ai bien aimé, il faut que ce soit confortable pour les deux. Absolument. Soignons nos zones de confort.
François ?
Très bien.
J'aurais voulu dire quelque chose. Allez-y, à François, parce qu'il a évoqué la routine et je crois qu'il a l'air de dire qu'ils se sont mis à distance pour justement ne pas aller dans la routine. Or la routine, c'est mon dada en quelque sorte. Moi je trouve que la routine, elle est très dévalorisée aujourd'hui parce qu'on a toujours besoin de sensations extrêmes, on est dans une société où tout doit aller vite et tout doit être toujours passionnant. Or, il faut bien se dire qu'on va vivre plus longtemps que nos prédécesseurs, donc la routine et l'ennui, c'est quelque chose qui est inhérent même à la vie. C'est pas le couple qui rend les choses ennuyeuses. On peut être séparés à distance, on s'ennuiera seul. Il faut apprendre à gérer nos routines et justement à en faire ce qu'on appelle plutôt un farniente, quelque chose où on est confortable et heureux. Et je crois que le goût pour la distance peut être aussi la peur de se confronter à une sorte de réalité qui est la réalité de vivre de la vie à deux et de vivre avec l'autre.
Ah oui, c'est une manière de fuir, c'est ce que vous...
Or, si on évite cette rencontre avec l'autre, il faut bien se dire que dans la vie, c'est le seul moment, la rencontre avec l'autre dans la vie à deux, qui nous oblige à faire une place au plus près de nous, dans une sorte d'interpénétrabilité sexuelle en tout cas, à quelqu'un qui nous est foncièrement étranger. Et moi je crois que le couple et la vie à deux, ça a un sens aussi d'école de l'humanité. Et j'ai un peu peur, quand on se met à distance pour ne pas se faire englober par la routine, qu'on passe passer aussi à côté de quelque chose d'essentiel dans notre propre humanité individuelle, c'est-à-dire d'apprendre à aller à la rencontre réelle de l'autre.
Oui, et par rapport à ce que dit Fabienne sur la routine, j'ajouterais que effectivement, je partage tout à fait votre avis, elle est très dévalorisée aujourd'hui ou critiquée, elle a quand même quelques avantages qui sont des repères, et les couples ont besoin à un moment donné d'avoir leurs petits repères. Alors moi, c'est pour ça que je changerais un peu le R, au lieu de routine, on va faire repère, mais c'est effectivement, ce sont des moments où on sait qu'on va se retrouver. Je vous donne un exemple des couples qui, par exemple, travaillent à distance, et Dieu sait qu'il y en a vraiment beaucoup aujourd'hui, eh bien le moment où on va se retrouver, où l'autre va aller par exemple à l'aéroport chercher la personne ou sur le quai de la gare, ça peut presque devenir une routine parce qu'on sait qu'on va avoir un large sourire qui va nous serrer dans ses bras, si je puis dire, mais c'est une routine de bonheur. Voilà, c'est pas la routine du « je trouve la paire de chaussettes toujours sous le lavabo ». Donc il y a routine et routine. Il faut la RR, la routine qui fait rêver. Voilà.
Merci beaucoup hein, François pour votre témoignage et bonne continuation en tout cas dans votre couple. Comment cultiver la complicité à distance ? On continue après Estelle qui chante « American Boy ». This the number one champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Got a promoter, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you.
tight, like the way he's speaking. His confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick it with you. You'll be my American boy, American boy. Let me get away this weekend, take me to Broadway. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. To Brooklyn, and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death. I'm loving no show toes. Walking that walk, talk that slick talk. Liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA.
Who killing them in the UK? Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't f*** with me. Estelle once said, tell me, cool down, down. Don't act a fool now, now. Always act a fool, ow, ow. Ain't nothing new now, now. He crazy, I know what you're thinking. Rapping, I know what you're drinking. Rap singer, chain blinger. Holla at the next chick soon as you're blinking. What's your persona about this Americana? Rhymer, am I shallow? Cause all my clothes designer. Dress smart like a London bloke. Before he speak, his suit be spoke. And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. And I know you ain't into all that. I heard your lyrics, I feel your spirit. But I still talk that cat. Cause a lot of wags wanna hear it. And I'm feeling like Mike at his baddest. Like the pips at the gladdest. And I know they love it. So they hit with all that rubbish.
Les voisins, les voisines, comment gérer l'amour à distance? Nous sommes avec Émilie de Vienne et Fabienne Kremer, psychanalyste. Alors Fabienne, comment garder, je dirais, cette flamme à distance? On a parlé effectivement des pensées, de la jalousie, de la distance dans le couple, mais on va parler aussi d'une forme d'érotisme. Comment on développe ça avec les nouveaux moyens de communication?
Alors, c'est un peu au même titre que tout à l'heure, je disais qu'on a tous dans nos relations un fil virtuel de communication. Alors, peut-être pas tous, mais nombre de gens utilisent les moyens virtuels pour entretenir leur flamme sexuelle. Ils n'ont pas besoin d'être à distance pour ça. Et il y a tout un érotisme autour de ça. Alors, ça a des tas d'avantages parce qu'on peut très bien, vous parliez tout à l'heure de la fenêtre ouverte sur Skype. Je ne veux pas accuser votre belle-fille, mais il se peut aussi que ça soit très érotique d'avoir...
Alors là, je ne sais pas, je n'étais pas dans l'intimité voilà, de ma belle-fille à ce point-là quand même, sinon je viens chez vous
si
tout de suite.
Si elle n'a pas d'imagination, d'autres en ont peut-être, mais donc ça existe, les relations virtuelles. Alors, ça a des, comme toujours à notre époque, ça a des tas d'avantages parce que du coup, on peut inventer des choses, ça peut être amusant, etc. Mais il y a aussi le pendant de ça, avec, on le voit par exemple au Japon, où les jeunes garçons s'est aperçu que les Japonais, vous savez, les Japonais entre 18 et 40 ans qui n'ont pas fait l'amour, je crois que c'est 40%, c'est énorme. C'est-à-dire que le virtuel, le défaut, c'est que ça peut aussi vous inviter à ne pas faire l'effort d'aller rencontrer l'autre, qui est quand même une des difficultés de notre vie. C'est quand même très intimidant de devoir faire l'amour à quelqu'un de réel. Donc, il y a aujourd'hui, on voit, beaucoup de, en particulier de jeunes garçons, qui sont un peu coincés dans la relation virtuelle telle qu'elle soit pornographique ou à distance avec des amis, et qui n'arrivent plus après à avoir une vie sexuelle vraiment enrichissante. Donc, il y a les deux.
Donc il faut réussir. Oser, en tout cas. Il faut oser ces différentes voilà, formes d'amour, au téléphone, au texto, voilà. Et oser érotiser.
Mais ne pas faire que ça. Voilà, il faut se rencontrer. C'est ça le problème de la distance, c'est qu'au bout d'un moment, on peut aussi y prendre goût, parce qu'elle peut être... Il y a un de vos auditeurs qui disait, j'en souffre pas, j'ai pas l'impression qu'elle soit pas là, mais du coup, c'est un piège. Donc il faut aussi faire l'effort, parce qu'au bout d'un moment, quand on a une relation à distance qui dure, il faut faire un effort pour aller voir l'autre. Parce que ça coûte de l'argent, parce que ça
ça prend sur d'autres shows, d'autres moments, etc. C'est pas si simple.
Alors il y a certains auditeurs qui évoquent la distance comme un avantage. Ça pourrait être un bon test avant la vie commune.
Alors moi j'avais juste pour finir déjà sur Fabienne, j'avais envie de dire il y a aussi un sas de décompression, c'est-à-dire que quand chacun était dans son tourbillon, avant qu'il y ait cette vraie rencontre, y compris une rencontre érotique, soit on est encore dans la phase passion et donc on se saute dessus allègrement et tout va bien, ou il y a quand même ce petit moment de décompression pour se re-rentrer dans l'énergie de l'autre et pouvoir effectivement après avoir ce temps d'érotisme, je dirais enrichissant, épanouissant, etc. Donc voilà pour répondre à cette partie. Maintenant sur ce que vous me disiez, vous pouvez
parce oui, que le test, coup, le bon ah, test oui, le avant bon la test. Vie
alors,
commune.
Moi, à mon époque, oui. Du haut de ma plus de cinquantaine, on disait que le grand test c'était au contraire de partir ou sur un bateau ou dans un voyage dans une petite chambre d'hôtel, parce que là il y a la promiscuité. Si on supporte ça, on devrait pouvoir continuer. Alors la distance c'est peut-être le nouveau test. Moi je pense que de toute façon les tests et tester l'amour, à un moment donné il n'y a pas 36 solutions, c'est cet alignement hein, de la tête, du cœur et du corps. Donc si notre analyse, je dirais intellectuelle, nos émotions, nos sentiments et notre comportement, si tout ce petit monde est aligné, a priori ça devrait marcher. Les ennuis commencent quand ça tiraille un peu dans l'un des trois, de notre tête, de notre cœur ou de notre corps.
Fabienne Kremer.
Oui, pour revenir un peu sur la sexualité, je pense que un couple, le désir, c'est le sujet du couple et c'est le plus difficile à gérer sur la durée, que l'on soit à distance ou que l'on soit ensemble. Et c'est déjà très très difficile de se caler l'un l'autre, d'autant que les hommes et les femmes n'ont pas un désir qui fonctionne de la même façon, etc. Donc je pense que la distance, c'est quand même un handicap à ce niveau-là, plus qu'une facilité. Et parce qu'après, il s'agit quand on se rencontre d'être tous les deux au même moment et prêts à la même chose, au même instant, etc. Et c'est pas si facile.
Alors on a tout de suite Abdoulaye qui nous appelle de Dakar au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Sandrine.
On vous écoute avec plaisir.
Bonjour tous les auditeurs de RFI. Si vous permettez de passer un bonjour à mon ami que j'aime beaucoup, un journaliste que j'aime beaucoup à RFI. Il s'appelle Christophe Babouvier.
On va lui transmettre à Christophe, alors. Merci beaucoup.
Eh bien, je vais lui transmettre. Dis-lui que je l'aime beaucoup, je l'adore beaucoup. J'écoute tellement ce qui...
Mais vous préférez voilà. Quand même votre copine qui habite à Bordeaux, rassurez-moi.
Non, comme je n'ai pas chance dans ce côté-là, donc je vais essayer de tourner à ma sens vers les hommes, peut-être.
Vous allez vous tourner vers les hommes. Alors, pour l'instant, vous avez une amie qui est à Bordeaux. Ouais.
Voilà, elle s'appelle Émilie.
C'est pas moi.
On a fait presque... Émilie, on a fait presque 3 ans, presque 4 ans, si je me trompe pas. Mais je pense que moi, je n'ai pas la chance sur ça. À chaque fois, on se parlait beaucoup, chaque jour, on se communiquait. À chaque fois que je descends, quand j'allume mon ordi, je trouve parfois 5 jusqu'à 6 messages, tu vois. Donc, on parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, elle est arrivée quand même à me proposer de venir me rendre visite ici au Sénégal. Je lui ai dit, non, oui, ça sera un grand honneur pour moi parce que ça fait partie de mes rêves. Mais entre-temps, elle a changé de parole en me disant qu'elle a des parents, elle doit s'occuper d'eux, donc finalement, elle ne peut pas venir, tu vois. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, si ce n'est pas cette année, peut-être on peut tenter une autre année.
Mais est-ce que vous gardez espoir ou...
L'espoir que j'ai actuellement n'est pas immense, parce que... J'ai commencé à me décourager parce que ces paroles. Ces paroles ne sont pas convaincantes. Parce qu'à chaque fois, si elle me parle ça, elle me parle d'une autre chose. Donc vraiment, je n'ai pas la confiance.
Et vous voulez des conseils aujourd'hui, Abdoulaye? Qu'est-ce que vous devez faire avec cette Émilie?
Raison. Voilà, c'est ça la raison de ma participation sur la mission. Je voulais des conseils. C'est possible.
Merci beaucoup, c'est possible, Abdoulaye, pour votre... Oui. Écoutez, on va écouter Fabienne donc Kremer d'abord. Alors, un petit conseil pour terminer. Ah, on a perdu Fabienne Kremer, la liaison avec Avignon. On était en duplex avec Avignon. Alors, Émilie Devienne, un petit conseil pour Abdoulaye.
Mais je pense qu'Abdoulaye déjà illustre ce que je vous disais tout à l'heure sur cet alignement entre nos pensées, nos émotions, nos sentiments et notre cœur. Et là, apparemment, mon homonyme, notre Émilie, l'Émilie de Bordeaux, apparemment, n'a pas l'air d'être cohérente entre ce qu'elle dit et la façon dont elle se comporte. Et on dit souvent que l'amour n'existe pas, il existe des preuves d'amour. Donc là, il y a peut-être une question que vous devez vous poser, Abdoulaye. L'autre question, c'est effectivement, on en a parlé dès le début de l'émission, c'est cette notion d'engagement. À quel stade, imaginons sur une échelle de 1 à 5, 5 étant le plus fort, 1 étant le plus faible, imaginons peut-être que vous évaluez votre engagement dans cette relation, je fais une hypothèse, disons à 4, et peut-être qu'elle n'est qu'à 2, et qu'effectivement, vous n'êtes pas en train de parler le même dialogue, le même langage, vous n'êtes pas dans les mêmes attentes. Donc après, il y a deux solutions, soit vous avez envie de lui en parler une bonne fois pour toutes, de manière à faire le tour de cette relation, et si vous devez vous séparez le cœur net, je dirais, soit vous vous taisez et vous risquez de souffrir beaucoup de choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas parlées. Hein. Je fais exprès d'employer ces mots-là, il faut qu'il y ait des paroles, il faut que les choses soient évoquées, parce que malheureusement, les êtres humains, on ne vient pas avec un mode d'emploi ni un contrat de confiance sans faire de publicité à aucune grande enseigne.
Donc à vous de voir effectivement si cette relation mène nulle part. À ce moment-là, est-ce qu'il faut arrêter ou est-ce qu'il y a encore des espoirs?
J'ai envie de dire, quand on croit qu'une relation mène nulle part, et là je brûle un peu la chandelle parce que c'est l'objet de mon prochain roman, mais quand on croit que la relation ne mène nulle part, en fait elle nous mène vers ailleurs. Il faut d'abord être bien triste, il faut bien pleurer, et ensuite on va redémarrer. Donc toute relation nous conduit ailleurs.
Merci beaucoup Émilie Devienne pour tous vos conseils. Vous êtes écrivain et coach sur le couple et vous avez publié Les règles d'or pour faire durer le couple. Nous étions également avec Fabienne Kremer, psychanalyste, spécialiste des troubles psycho-affectifs et auteur de 21 clés pour l'amour slow aux éditions PUF. Et on remercie France Bleu à Avignon d'avoir établi la liaison qui s'est coupée comme ça, comme par enchantement à la fin de l'émission. Alors merci à toute l'équipe, merci à vous auditeurs pour toutes vos questions, vos commentaires, et demain on se retrouve sur nos relations, sur la place de l'animal dans votre vie. À demain.